France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Longtemps, il s'est couché de bonne heure pour présenter la matinale de France Musique. Ensuite, il s'est couché tard pour animer le Classic Club en direct de l'hôtel Bedford. Désormais, Lionel Esparza n'a plus le droit à la sieste. Il est à l'antenne relax tous les jours de 15h à 17h. Bonjour Lionel.
Bonjour Jean-Baptiste.
De l'autre côté du micro ce matin pour un livre. Ce livre à la couverture bleu clair, mais au constat assez noir, pessimiste peut-être, on va en parler. Le génie des modernes, sous-titré La musique au défi du 21e siècle. Il vient de paraître aux éditions Première Loge. Une réflexion philosophique, historique aussi, sur le devenir de cette musique classique. On va définir aussi les choses. Longue réflexion en trois parties. D'abord un constat, un dépérissement, un déclin de la musique, un public vieilli, une image ternie, une éducation qui se raréfie. Et ce titre un brin provoque, comment on perd ses clientèles. Puis une partie sur les causes, les origines, et enfin une troisième partie réflexion sur la modernité, ces modernes du titre. On va les détailler, mais d'abord, comment Lionel Esparza, cette réflexion et le désir d'écrire, d'analyser, le constat que vous faites, tout ça, comment est-ce né?
C'est né parce que, je le raconte au début en fait, il y a eu un certain moment, un événement qui a beaucoup animé le monde musical, c'était en 2013, la disparition du compositeur Henri Dutilleux. Je rappelle dans l'ouvrage que lorsque Gabriel Fauré est décédé dans les années 1924, on lui a fait des funérailles nationales, que du temps d'Olivier Messiaen, à la mort d'Olivier Messiaen, il y avait beaucoup de politique, une énorme barouf qui a eu autour de la mort de Messiaen, qui a été reconnu comme l'un des grands compositeurs du XXe siècle. Lorsqu'Henri Dutilleux est mort, le troisième grand avec Boulez et Messiaen, ben il s'est rien passé. L'info en continu a à peine vu la chose. Dans les journaux aussi, les grands journaux ont fait quand même une nécro de rigueur, comme on dit, mais beaucoup ont complètement laissé passer ça, tout simplement parce qu'ils ne repéraient pas quelqu'un comme Henri Dutilleux. Et au moment de ces funérailles, enfin des obsèques auxquelles on a pu assister, il n'y avait personne du monde politique. Et beaucoup dans le milieu musical ont pris ça comme une sorte de remise en question, en disant mais qu'est-ce qui se passe? On est un art quand même qui n'est pas rien, ce grand art classique, qui avec lequel on finit par identifier quasiment l'Europe occidentale, la France, de très grandes choses. Et puis, on a un compositeur très important qui meurt et personne ne le voit. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait beaucoup d'autres choses qui faisaient série avec tout ça. Ça a beaucoup fait réfléchir. Et je pense que qu'on soit posé la question à l'époque de la place du classique dans le monde, de son aura, surtout de la reconnaissance qu'il a auprès non seulement des élites, mais du grand public, c'est une très bonne chose autour de cette disparition. Maintenant, il faut arriver à faire un constat ou un diagnostic aussi juste que possible.
Vous aussi, ça vous a remis en question, ça vous a questionné, ça a été le point de départ de cette réflexion?
Là où on était questionné à France Musique, moi j'y travaille depuis 20 ou 25 ans, c'était sur les fondements même d'une antenne comme la nôtre, c'est-à-dire, disons que France Musique a été pendant des années, face à Radio Classique, l'antenne qui mettait en avant ce qu'on va appeler le versant spirituel de la musique. Le fait que la musique nous met en rapport toujours avec un autre chose. Cette autre chose, c'est de la transcendance. Cette autre chose, c'est la grandeur esthétique. Face à ça, Radio Classique imposait depuis des années quelque chose qui était plutôt de l'ordre, on va dire, du faisons de la musique, vivons la musique ensemble. Quelque chose, une sorte de retour de la société, du bien-être ensemble, une sorte de préparation de la société du care qui était fait à travers la musique. Et c'est vrai que les questionnements qu'a vécu l'antenne de France Musique depuis 20 ans, qui ont été très profonds, et les auditeurs qui nous écoutent ce matin, peut-être certains d'entre eux écoutaient l'antenne il y a 20 ans, ils remarquent que l'antenne a beaucoup évolué. Moi, je ne me contente pas je déplore pas, ni ne trouve que ces évolutions sont bonnes ou mauvaises. J'ai un avis là-dessus, mais je me garde bien de le dire dans le livre. En revanche, il est certain qu'il y a une évolution qui est très claire. Et les remises en question, qui étaient celles du milieu classique, ont été celles aussi de la chambre d'écho du milieu classique, c'est-à-dire l'antenne de France Musique. Donc, on les a vécues, toutes ces évolutions-là, je dirais, intuitivement, naturellement, de plein fouet. Et c'est une manière, ce livre-là aussi, peut-être, de remettre cela en perspective.
Événement déclencheur, la mort d'Henri Dutilleux, mais aussi deux morts concomitantes, celle de Debé, Pierre Boulez et David Bowie.
Oui, alors ça c'était quelques temps après la mort d'Henri Dutilleux. Pierre Boulez est mort et c'est vrai que c'est une sorte d'icône dans le monde français, dans le monde de la musique française. Pierre Boulez, lui pour le coup, avait réussi à avoir des accointances, des liens avec le monde politique. Moi je fais toujours la comparaison entre Boulez et Lully. C'est-à-dire que Lully, en son temps, du temps de la grande politique culturelle, on pourrait dire, de Louis XIV, a introduit la musique italienne en France et, se faisant, a complètement revivifié la musique française et lui a donné son tour pour au moins 50 ans, si ce n'est quasiment un siècle. Pape Boulez a fait exactement la même chose. C'est-à-dire, c'était un compositeur, c'était un chef d'orchestre, un musicien absolument complet. Il a été suffisamment proche des institutions, cette fois-ci la politique culturelle mitterrandienne, languienne, et encore, il faudrait remonter avant, puisque tout ça remontait bien évidemment à Malraux, pour faire en sorte de créer toute une partie de la vie institutionnelle, mais aussi de l'horizon esthétique de la France dans les années 70, 80, jusque quasiment aujourd'hui. Il faut rappeler que la Cité de la Musique, enfin la Philharmonie de Paris, est un lieu qui a été voulu au départ par Pierre Boulez, même s'il a été porté par Laurent Bayle. C'est quand même Boulez qui l'a voulu, et c'est lui qui a réussi à convaincre les politiques de le faire. Donc au moment de sa mort, évidemment, il se passe quand même quelque chose. Seulement patatras, deux jours après, David Bowie qui meurt. Et alors autant pour Boulez, il y avait eu quand même, à la différence de Dutilleux, il y avait eu des retours, on en avait parlé, le monde politique s'était un peu ému de la chose, il y avait eu des déclarations. Autant, une fois qu'est arrivé la mort de Bowie, alors tout ça a été effacé dans quelques minutes. Et le plus significatif, c'est que celui qui était pour nous tous, Boulez, le chantre de la grande modernité en musique, alors celui qui est devenu le chantre de la modernité, c'est David Bowie. Et partout, on a dit, le grand moderne, c'est lui, alors que Boulez venait de mourir. Et là encore, au moment où on croyait se rattraper, il y a eu cette espèce de petit coup de baffe, là, de disant, non, on n'est pas au même niveau, vraiment pas au même niveau.
Lionel Esparza est l'invité de France Musique. Jusqu'à 9h, voici David Bowie, mais sur un disque classique.
Are you sitting comfortably? Then I shall begin. Early one morning, Peter opened the gate and went out into the big green meadow. Of a big tree.
On a un petit clin d'œil, c'est David Bowie qui raconte Pierre et le Loup de Prokofiev ici avec l'orchestre de Philadelphie dirigé par Eugène Normandie en 1983. Le génie des modernes, la musique au défi du 21e siècle, c'est le livre de Lionel Esparza qui vient de paraître aux éditions Première Loge. On va quand même faire une définition. Lionel, il y a un avertissement au tout début, très court, et puis vous revenez ensuite à la fin sur la définition de la musique classique. Je vais poser une question un peu idiote, mais David Bowie ne sera pas de la musique classique dans deux siècles
hein ? Je ne sais pas. Ça, c'est difficile de le dire. Je pense pas parce que... Mais ça ne veut pas dire que ça ne retire rien à sa valeur. Hein. Je ne suis pas du tout dans l'idée que c'est la musique classique qui est légitime.
Mais qu'est-ce que la musique classique ?
Tous les autres arts. Ben, je dirais, bon, la définition, la définition qu'on donne en général, la formulation qu'on trouve, c'est musique savante, occidentale, de tradition, écrite. Il y a un certain nombre de choses là-dedans qui font que David Bowie n'entre pas dans cette définition. Ça ne retire rien, encore une fois, à ses qualités. Je ne suis pas là pour mettre des hiérarchies et des cloisonnements entre les musiques. C'est simplement pas la même chose. Moi, j'ai une définition de la musique classique qui est un petit peu autre et qui est dérivée en fait d'une sociologue qui s'appelle Nathalie Hennick, qui a travaillé sur les sujets artistiques en règle générale, mais pas sur la musique. Mais ce qu'elle arrive à en tirer comme conclusion peut être vraiment intéressant sur ce qui concerne la musique. Elle dit il y a trois, ce qu'elle appelle paradigme, on va appeler ça trois tendances. Une tendance classique, c'est-à-dire un art qui serait dans le temps long, un art de la transmission, basé sur du métier, basé sur de l'artisanat, on va dire c'est la grande peinture classique, la grande sculpture classique, la grande littérature classique, la grande musique classique. Voilà. Et puis il y a l'art moderne, la tendance moderne, qui est une tendance en quelque sorte en opposition avec le classique. Vous savez, c'est ce qui s'est passé au 19e siècle. En gros, on prend tout ce qu'est l'art classique et on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire à l'idée d'une transmission, on va sur le changement, à l'idée du métier, on invente le génie inspiré, à l'artisanat, on oppose l'art, la figure de l'artiste qui vient être mise en avant comme ça. Et puis il y a une troisième grande tendance dont parle Nathalie Hennig, qui est la tendance contemporaine sur laquelle on pourra revenir, qui est encore autre chose. Et sous cet angle-là, on peut dire que la musique classique, elle correspond parfaitement, enfin ce qu'elle est réellement, correspond parfaitement à un art, un grand art classique, si on le prend, en tout cas dans la manière dont on le vit aujourd'hui, comme un grand dispositif où il y a à la fois des artistes qui jouent, des personnes qui écoutent cette musique, certaines, on peut espérer, des amateurs qui subsistent et qui la pratiquent aussi, mais sur l'idée d'un patrimoine, d'une continuité, d'une permanence, de quelque chose qui remonte loin et qui va jusqu'à nous. David Bowie n'est pas du tout là-dedans. Il le sera peut-être dans deux siècles, mais dans un autre art classique qui sera peut-être celui de ce qu'on appelle aujourd'hui les musiques populaires, mais ça, ce sera un autre monde.
C'était une question de définition qui revient dans le livre, Lionel Esparza. Vous tirez le fil dans la première partie de votre livre de cette question que vous avez posée. Pourquoi, quand Henri Dutilleux, tout le monde s'en fiche, ou presque. Vous parlez de cette musique, donc, qu'on va appeler classique, pour résumer, une omniprésence gazeuse, une oasis à la fois centrale et enclavée. Et cette question, donc, je disais, un peu provocatrice, comment on perd des clientèles? Pourquoi ce mot?
Le clientèle, le mot semble moche, parce que qui dit clientèle dit économie. En général, on n'aime pas, surtout en France, parler d'économie, parler d'argent. Je rappelle quand même que les musiciens, c'est des gens qui ont besoin de vivre. Et s'ils font de la musique, en général, c'est qu'ils ont besoin de gagner de l'argent, ou qu'ils aiment en gagner, ou ils sont de ce point de vue-là, comme chacun d'entre nous. Nous aussi. Enfin, moi, je suis pas rentier, je sais pas vous, mais enfin, moi, je gagne ma vie. Donc, j'ai besoin d'avoir une clientèle lorsque je propose un produit. Produit radiophonique, l'émission que moi, je fais l'après-midi, l'émission que vous faites là. On a un médiamétrique qui nous dit le nombre de gens, on a des gens qui nous écrivent. On a une clientèle. Cette clientèle, elle est grosse, elle est petite, comment on la définit? La musique classique a toujours eu une clientèle. Pendant très longtemps, cette clientèle, ça a été l'Église. Ça a été à d'autres moments l'aristocratie. Ça a été d'autres instants de l'histoire, les grands monarques. Ça a pu être la grande bourgeoisie du 19e siècle. Il n'y a pas si longtemps, la clientèle de la musique classique, si on prend l'entre-deux-guerres, dans toute la période Troisième République, prise dans un sens assez large, c'était cette espèce de mixte entre très grande bourgeoisie possédante et puis ce qui restait d'une aristocratie un peu résiduelle, les grands salons, qui ont existé à la fin du 19e et jusque quasiment à la Deuxième Guerre mondiale, de la Polignac, pour ne citer qu'elle, qui était certainement la mécène la plus exposée à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une clientèle, c'est-à-dire des gens qui sont intéressés à un art et qui sont prêts à donner de leur argent pour que cet art existe, à des artistes, à des compositeurs, à des instrumentistes, etc. Or, on observe que toutes les clientèles de la musique classique se sont effritées au fur et à mesure du XXe siècle, parce qu'il y a eu en face une énorme concurrence. Le grand public, par exemple, pouvait avoir envie d'opéra au début du XXe siècle, sauf qu'est-ce qu'il est arrivé au début du XXe siècle? Le cinéma, c'est magnifique, le cinéma, ça remplit le cinéma, toutes les fonctions de l'opéra en mieux. Donc pourquoi s'embêter à aller à l'opéra? La musique instrumentale, alors c'est très beau la musique instrumentale, la grande tradition classique. Simplement, il naît un truc qui s'appelle le jazz, et puis arrive dans les années 50 le disque, le rock, vous avez entendu, David Bowie, voilà, qui les enfants, ce que j'appelle les enfants du blues, parce que tout ça, c'est né du blues. Et pourquoi s'embêter à l'écouter de la musique instrumentale de Boulez quand vous avez des choses comme ça qui sont immédiates, qui vous permettent d'aller danser, de rencontrer des gens? Donc il y a une série de concurrences qui font que les clientèles du classique ont fini par se réduire, pas disparaître complètement, mais se réduire énormément, et simplement à cette poche de mélomanes, c'est-à-dire ce petit pourcent ou ces 2% d'une population, dans un pays comme la France, qui continue d'aimer fibralement, fondamentalement, la musique classique. Mais ça a du mal à élargir, à aller beaucoup plus loin que cela. Sans ceci, je pense qu'on a perdu, en effet, une grande partie de nos clientèles, et que du coup, le devenir d'un art sans clientèle, c'est une vraie question.
Vous parliez d'économie, vous le soulignez aussi, la musique classique n'est plus rentable. Il y a eu un changement de paradigme dans le rapport à cette culture-là, et vous soulignez notamment, Lionel Esparza, cette société de loisirs qui infuse partout, y compris à l'Opéra de Paris, dont Paris, la ville, la capitale, pourrait d'ailleurs un peu le symbole.
Alors je suis pas aussi critique que ça envers ça, ce que j'appelle de manière un petit peu hâtive la grande culture globale, la grande culture mondialisée, on pourrait dire. Beaucoup, je sais, dans le monde classique, considèrent que ça c'est une déperdition absolue. Bon, c'est ce que c'est. C'est là, le tout c'est de savoir comment on peut articuler autre chose avec cela, et autre chose comme par exemple ce qu'apporte la musique classique. Mais en effet, il s'est passé depuis ces 30 ou 40 dernières années quelque chose d'absolument considérable et qu'on n'a pas encore bien analysé, et je serais d'ailleurs bien incapable de le faire. Vous avez d'un côté, en effet, ce qu'on appelle des cultures populaires. Ça a démarré avec le cinéma, avec les musiques dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, le grand symbole des cultures populaires, c'est la série américaine, qui est un espace de créativité absolument, absolument incroyable, et qui pose aussi, d'ailleurs, la série américaine à tous les autres arts de la narration de profondes questions. C'est-à-dire que comment on peut écrire, continuer à écrire des romans, à faire des films de cinéma, lorsque vous avez des séries qui, en termes de capacité narrative, et d'invention, de créativité à l'intérieur de cela, accomplissent vraiment des choses qui sont extraordinairement, enfin, artistiquement, extraordinairement fortes. Donc, tout ce qui est de l'ordre, on va dire, des arts populaires. Et puis en face, vous avez eu, et ça c'est aussi une concurrence, c'est aussi un glissement de clientèle d'une certaine manière, toute une élite mondialisée qui elle a créé un art qui n'est pas si éloigné de ces arts populaires-là, qui en reprend en quelque sorte le meilleur ou qu'il détermine par moment, et qui mêle le luxe, le people, la chanson, mais plutôt la chanson de David Bowie que le grand art classique. Je dis David Bowie parce que c'est celui que vous avez choisi qui va devenir le symbole de cela aujourd'hui. Bernard Arnault est une personnalité fondamentale de ce point de vue-là et dont on n'a pas mesuré encore tout ce qu'il a créé. Bernard Arnault a créé un empire du luxe qui est aussi une sorte de convergence à la fois de la mode, du luxe, de l'art contemporain, et ça c'est très 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 important, et des musiques populaires. Il y a une sorte d'art qui est à la fois pop et très élitiste, qui arrive à essaimer à la fois dans le très très grand public et dans l'élite possédante du monde. Et ça, dans cet espace-là, le classique n'entre absolument plus.
Même si les propriétaires de Radio Classique, qu'il a une salle de concert dans sa fondation Vuitton et que...
Oui, mais ça, c'est... Je veux dire, c'est des danseuses pour lui. C'est pas fondamental. En tout cas, il ne travaille pas les liens. Je veux dire, Radio Classique est une enclave au sein de son empire. Je veux dire, il va tout faire pour faire se rencontrer des chanteurs, des artistes et des grands artistes de l'art contemporain. Je ne sache pas qu'il ait passé beaucoup de commandes à des compositeurs, ni qu'il considère que la musique classique dans ses espaces de créativité puisse entrer auprès des autres arts.
La disparition des mécènes, l'évolution des politiques culturelles, ce sont quelques-uns des points de la première partie de ce livre, Le génie des modernes, de Lionel Esparza, qui vient de paraître aux Premières Loges. Il est notre invité jusqu'à 9h. Le temps file, le temps qui est présent d'ailleurs dans ce livre aussi. Mais un mot qui revient beaucoup, sacralité, sacré.
Thank you.
musique sacrée, sacrée musique, extrait du Messie de Handel and the Glory of the Lord avec le chœur et l'orchestre, enfin les Gabriel Consort et les Gabriel Players dirigés par Paul McCreesh. On parle avec Lionel Esparza de son livre, Le génie des modernes, la musique au défi du 21e siècle.
Pas du 19e.
Première loge, mais vous remontez au 19e et au 18e, et notamment en cette année, c'est 1742, si je ne m'abuse, hein, la création du Messie. Je disais le mot sacré qui revient, cette société qui est un espace de qui n'est plus un espace de sacralité, la musique classique qui l'est encore, la partition parée, écrivez-vous, de toutes les vertus du sacré. Et puis donc, il y a une seconde partie dans ce livre historique, comment la musique a acquis une sacralité propre, et vous vous arrêtez sur un certain nombre d'événements, et notamment ce Messie de Handel. Pourquoi Lionel Esparza?
Alors, ce qui se passe entre la deuxième moitié du XVIIIe siècle et première partie du XIXe, en gros, jusque dans les années 30, d'une certaine manière, ça se poursuit encore après. Tout ça rentre, en fait, je le fais rentrer dans un grand mouvement qui est beaucoup plus vaste que cela, qui est ce que Marcel Gauchet appelait la sortie du religieux, c'est-à-dire le fait que, on va dire très simplement, au XVIe siècle, l'entièreté de la société est déterminée par des questions religieuses. C'est le religieux qui détermine le politique, la vie sociale, les comportements, ce qu'on a le droit de faire, la morale, etc.
Et donc les arts.
Et donc les arts aussi, grandement, et on sait que l'Église a été évidemment commanditeur de tout un tas de toutes pièces musicales, comme on disait tout à l'heure, la principale clientèle pour la musique pendant des siècles et des siècles, c'est l'Église. Et puis à un certain moment, tout simplement, il y a une reprise en main de la société sur elle-même, ce qu'on a appelé, selon les cas, sécularisation ou laïcisation, c'est deux choses un petit peu différentes, mais qui pour l'objet reviennent à peu près au même, qui fait que l'Église laisse un certain nombre de ses prérogatives à la société, qui les récupère, qui se les réapproprie, qui reprend pied en quelque sorte face aux religieux. Et dans cette grande perspective-là, ce que Nietzsche a pu appeler aussi tout simplement la mort de Dieu, il y a des chaos, il y a eu toute une évolution. Et la musique participe de cette évolution-là. Elle fait partie, en tout cas c'est comme ça qu'on peut l'analyser, soit comme une religion de substitution, soit, je préfère le terme, un substitut du religieux. C'est-à-dire qu'à un moment où le religieux disparaît, il y a des domaines qui finissent par prendre quelque chose du religieux, le sentiment spirituel, la volonté de transcendance, l'aspiration vers un ailleurs. On pourrait dire idéologiquement que le mouvement communiste a été largement inspiré par le religieux, ou plutôt qu'il a récupéré quelque chose de l'inspiration religieuse. Et de la même manière, la musique fait ça sur quelques dizaines d'années. En gros, la mort de Jean-Sébastien Bach à la Saint-Mathieu refaite, réécrite, redonnée par Félix Mendelssohn, se passe quelque chose, et le Messie en est aussi un moment, qui est en quelque sorte la spiritualisation du musical. La musique devient en soi, non pas l'expression du sacré pour lequel elle va être un instrument, mais devient un espace de spiritualité à part entière, et dans la mesure où, à partir du moment où vous vous singularisez comme espace de spiritualité, elle devient aussi un espace un tant soit peu séparé à l'intérieur de la société, alors qu'auparavant, la musique était, on va dire, beaucoup plus fonctionnelle, beaucoup plus intriquée dans les événements sociaux.
Ce livre, il fait 300 pages, je parlais de réflexion, c'est plus une démonstration. Il y a d'abord le constat que vous faites sur ce déclin de la musique classique, et puis vous allez chercher aux origines, aux causes, et donc ce qu'on est en train d'évoquer. En quoi ce que vous décrivez, cette sacralisation de la musique, y compris quand elle n'est pas sacrée, en quoi ça peut expliquer votre constat d'aujourd'hui?
Ça l'explique dans la mesure où, dès que la musique devient un espace de religieux, évidemment, encore une fois, elle se met à part de la société elle-même. Si la société reconnaît cette espèce d'univers à part à l'intérieur de ce qu'elle est, et tant qu'elle le reconnaît, tout va bien. À partir du moment où la société, en quelque sorte, veut, dans un stade encore un petit peu plus tardif et un stade supplémentaire, se séparer toujours plus d'émotions religieuses, elle se sépare non seulement de la religion elle-même, mais des substituts de religieux qu'elle avait créés pour pouvoir le faire. C'est une sorte de grand mouvement anthropologique, dont on n'est pas sorti d'ailleurs, et qui explique toutes les questionnements qui sont envoyés, adressés à la musique classique. Par exemple, le questionnement sur le fait que ce soit un art trop ritualisé. On dit qu'il faut abolir le rituel de la musique classique, ou transformer le rituel de la musique classique. On rappellera là-dessus que tout spectacle est un rituel. Hein, un concert rock, c'est un rituel.
Y compris Beyoncé ou Shakira, que vous citez aussi.
Et évidemment, bien sûr. Et d'ailleurs, la qualité des artistes que vous citez là, Elle tient pas seulement à leur musique, qui est ce qu'elle est, elle tient au fait qu'ils sont capables de créer une forme de communionnel sur scène. Je veux dire, lorsque vous assistez à ce genre de concert, enfin, il se passe un truc en termes collectifs qui est vraiment énorme, quoi. C'est pas du secondaire. Donc, à un certain moment, la société évolue et le type de sacralité qu'elle veut mettre en avant, on le voit très bien, n'est plus du tout le même. Il change aussi, il perd sa valeur religieuse et il va vers autre chose, vers une forme, on va dire, de sacré, de transgression, pour prononcer les termes de manière sociologique, auquel la musique est relativement mal adaptée, dirons-nous.
On est des bavards, Lionel, le temps file, on pourrait s'arrêter sur la figure de Liszt, de Wagner, mais ça, il faudra aller voir dans le livre pour voir en quoi elles sont aussi fondamentales. On avance, et il y a une troisième partie, donc c'est moderne dans le livre. Il y a quand même quelque chose qui revient, c'est une réflexion qui remonte à près d'une dizaine d'années, mais il y a ce moment de la crise sanitaire, du Covid. Est-ce que ça a été un accélérateur, un catalyseur, un révélateur même de ce déclin ou cette mort de la musique?
Alors, je crois que la crise sanitaire, comme dans tous les domaines, ne crée rien, c'est-à-dire qu'elle ne casse rien, disons qu'elle accélère les phénomènes. Ce qui était en germe, ce qui était en train d'exister, est accéléré par la crise sanitaire. Pour ce qui est de la musique classique, il faudra voir vraiment de très nombreuses années pour voir comment les choses évoluent. L'impression que j'ai, c'est que une fois que la crise sera terminée, on va essayer de tout recommencer comme avant. C'est-à-dire recréer le milieu classique tel qu'il a existé auparavant, comme après un grand traumatisme collectif ou un grand traumatisme individuel. On veut revenir à ce qu'était la situation précédente. Et je pense que dans les mois et les années immédiates qui vont suivre, c'est ça qui va se passer. Simplement, à un moment ou à un autre, vont aussi se reposer des questions. La question des publics, la question des financements. Je rappelle qu'aujourd'hui, la musique ne tient que sur des financements publics et quasiment uniquement là-dessus, ce qui est une véritable question à partir du moment où l'art ne représente plus ni l'État, ni ne parvient même à représenter l'entièreté de la collectivité elle-même. Et ces questions-là, me semble-t-il, seront posées de manière très très franche, après sans doute cette période de retour en arrière dans les années qui viennent, peut-être 5 ans, 10 ans, c'est difficile de dire des choses sur le futur là-dessus. Encore une fois, si pour répondre précisément à votre question, le confinement ne change rien, mais confirme et accélère.
On parle beaucoup de la France, mais c'est valable sur les sociétés occidentales, même s'il y a eu des variantes, notamment par exemple aux États-Unis. Il y a un pays qui revient beaucoup dans votre livre, Lionel Esparza, qui peut être aussi un espoir, c'est la Chine.
Oui, sans doute. Et alors, je suis pas de ceux qui disent que les autres guillemets civilisations, je sais pas qu'on appelle ça, sociétés, n'ont pas à apprendre la musique classique parce qu'il y aurait une forme d'être occidental qui s'exprimerait là-dedans. Pas du tout. Je crois que c'est au contraire vraiment une ouverture très importante. Ce qui se passe en Chine, en Asie, en règle générale, dans d'autres pays encore, on le voit un peu en Afrique, même si c'est beaucoup plus modeste pour l'instant, en Amérique du Sud aussi, de manière très générale, dans les pays en voie de développement ou les pays émergents, on voit qu'il y a un appétit pour la musique classique. Qui est très très fort en Chine, bon, avant le confinement bien évidemment, mais il se crée des salles, il se construit, quand je dis se construit, de nouvelles salles, des auditoriums, voire même des opéras quasiment toutes les semaines. Je rappelle qu'il y a eu ces 10 dernières années des opéras qui ont été construits aussi au Kazakhstan, aux Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire dans des lieux où on se dit que l'opposition avec l'Occident, le choc des civilisations doit être très très fort. Non, en réalité c'est que le classique est aussi l'une des voies de la mondialisation, il l'a été historiquement, et je pense qui le sera aussi dans le futur. Et s'il y a une voie de sortie réelle, c'est certainement dans cette direction-là, à cet horizon-là.
C'est qui ? C'est quoi le génie des modernes ?
C'est la musique elle-même. Le génie, c'est cette idée, vous savez, c'est la définition romaine du génie. C'est cet être qu'on a à l'intérieur de nous, qui n'est pas tout à fait nous, qui nous appartient, mais qui nous appartient pas totalement, et qui rappelle en quelque sorte ce qu'était la beauté et l'enfance presque de nos origines. Et je crois que la musique a servi de génie au moderne, au grand mouvement qui, depuis 2-3 siècles, essaie de rationaliser, comme on le disait tout à l'heure, de sortir du religieux. La musique nous rappelle ce qu'ont été les temps anciens, ce désenchantement en particulier.
Voilà, quelques mesures de Xavier Coubat, qui a d'ailleurs été une musique de film, 2046, pour revenir à ce cinéma qui a été longtemps le générique de début de votre magazine Lionel Esparza, et ce sera notre générique de fin.
Chantier.
Le génie des modernes, ça vient de paraître aux éditions Première Loge, rendez-vous à 15h.
Ah oui, aujourd'hui, avec le magazine Diapason en plus.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Demain, notre invité sera Richard Brunel, le nouveau futur, à partir de septembre, directeur de l'Opéra de Lyon.
À réécouter sur francemusique.fr.